Donc il y a les cassos qui sont des cassos parce qu'ils ont, je ne vais pas dire parce qu'ils ont envie de l'être, mais qui le sont profondément et qui, à la limite, n'ont pas tellement envie de modification. Il y a ceux qui en ont envie et qui le font. Et puis il y en a d'autres où on sent que de toute façon, il n'y a plus de lumière aux étages, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir sans cesse renouvelé que de vous retrouver au cœur de l'après-midi pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures pour décrypter les mots qui flottent dans l'air du temps, les expressions aussi, et celle-ci, vous l'avez forcément déjà entendue, une expression devenue au fil du temps une insulte, cassos. C'est même par cette contraction méprisante de cas social que Manon appelait Quentin dans les premiers temps de leur collaboration. Moi, même avec un bâton, je le touche pas, le cassos d'Alençon, s'écriait Manon lors de notre toute première séance photo de groupe en septembre 2022. Alors que le photographe nous avait demandé de nous rapprocher, shooting mouvementé qui accouchera de la fameuse photo dite du zoom zoom gangbang, suite à un non-respect évident des consignes du photographe, aboutissant à ce que Cyril étrangle Quentin pendant que je m'accroche à Manon. Bref, à cette époque où Quentin portait encore des vannes célimées, sentait encore l'agriculture,
j'en ai encore,
et n'avait encore aucune idée de ce qu'était le monde de la mode qui serait un jour le sien, Manon le toisait avec mépris, estimant, oui, qu'il faisait partie de ces jeunes provinciaux mal dégoûtés grossi, qui faisait tâche dans sa belle ville de Paris. Et ce jugement de valeur honteux, qui d'ailleurs vaudra à Manon de démarrer le quiz avec 2 points de pénalité,
mais c'est bien.
Parce qu'elle le mérite, n'est hélas pas l'apanage de la Marianoche. Nous sommes nombreux aujourd'hui à utiliser cette expression de cassos concernant des gens qui ne sont pas techniquement des cas sociaux. Alors qui sont ceux qu'on assimile à des cassos? Pourquoi utilise-t-on cette expression blessante? Et surtout, qu'est-ce qu'elle dit de nous? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Clément Reversé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Clément, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Vos travaux portent essentiellement sur les jeunes invisibilisés et vulnérables dans les territoires ruraux. Vous venez de sortir La vie de cassos, jeunes ruraux en survie aux éditions Le Bord de l'eau. Une enquête auprès de 100 jeunes qui vivent justement en marge. Vous allez nous expliquer ça, juste le temps de vous présenter mes précieux acolytes qui ont su, saison après saison, surmonter leurs différences pour faire équipe. Mes champions Manon Mariani, Quentin, lui, on est tous ensemble. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Quentin.
Bonjour Manon.
Bonjour Mathieu. Oui. Yes. À vos côtés, Clément, vous avez beau vous trouver à seulement 1m50 d'elle, sachez qu'elle ne distingue pas du tout vos traits. Elle voit juste une grosse tache verte.
Oui,
il y a quelques jours, Manon est entrée dans sa 35e année de la pire des manières, en découvrant chez l'ophtalmo qu'elle devenait myope et qu'elle devrait rapidement porter des lunettes triple foyer. Heureusement, dans cette épreuve, elle peut compter sur le soutien de son conjoint, le mystérieux CV, qui lui a immédiatement trouvé un nouveau surnom, Ray Charles. Manon, si toutefois vous êtes en mesure de vous relire, vous nous présentez votre pièce jointe.
Oui, bien sûr. C'est compliqué de faire le deuil de ma vue quand même.
Eh oui, pour moi. Vous avez une toute petite tête. Ça va vite faire Nana Mouskouri cette histoire.
Vous n'allez pas devenir.
C'est vrai.
Ça va, Quentin. Vous êtes méchant. C'est fou.
C'est pas
quoi.
Méchant.
Je vais vous rappeler.
Vous n'allez pas devenir aveugle, Manon.
C'est oui, non, mais je sais.
C'est tout à fait normal.
Déjà, je vous distingue tous les trois, enfin tous les quatre, du coup. Bref, aujourd'hui, je reviens sur un événement morbide qui a eu lieu en début d'année. Un homme est décédé en direct sur la plateforme de Vidéokick où on change d'ambiance. Alors qu'il se faisait traiter justement de cassos tous les jours.
Face à vous Clément, il est loin, le temps où Manon le traitait de cassos. Quand il zonnait dans la ZUP d'Alençon en rêvant du jour où il pourrait se payer une 103 SP Popolini. Rêve qui lui paraissait si lointain, car il lui faudrait en forcer des parcmètres pour réussir à réunir la somme astronomique de 3000 francs. Désormais, il mène grand train dans la capitale au bras d'une figure éminente du milieu de la mode. Quand il revient à Alençon, c'est pour se moquer de ses anciens amis et les faire baver de jalousie en leur montrant ses nouvelles baskets Balenciaga. Regarde Polo, c'est 3 mois de ton salaire d'intérimaire ça. Quentin, heureusement vous redevenez humain dans l'exercice de votre beau métier, le micro-trottoir. Oui. Dites-nous dans la
beau
rue,
métier.
Ce terme de cassos, il évoque quoi?
Alors Polo, déjà beau métier, oui.
La violence
c'est
du propos.
Vous avez été méchant avec Nana Mouskouri, donc du coup je me permets.
Avec vous du coup. Voilà, oui.
Elle vous méprise, c'est terrible.
Polo gagne mieux que moi aujourd'hui.
C'est vrai?
Votre salaire à Radio France n'est pas la norme.
Mais qu'est-ce qu'il fait
Polo?
Il travaille bien.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il fait de la thune. Alors le terme.
Le mec, il était au Louvre il n'y a pas longtemps.
Le terme de cas social est intéressant à aborder dans la rue, malgré ce que peut dire Manon, dans un micro-trottoir, parce que c'est un mot qui circule, une injure, un surnom pour chambrer aussi. Bref, on est loin de la vraie détresse sociale dans laquelle peuvent se trouver aussi certaines personnes. On en discute avec vous dans la rue dans la prochaine demi-heure, Mathieu.
Vers 16h30, un zeste d'espoir nommé Zoom Zoom Test. Nous partirons à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui étaient prédestinés à devenir cassos et qui ont su briser les chaînes du déterminisme social. sociale pour prendre un autre chemin, celui de la win. Encore bravo Quentin.
Mais ça,
juste avant 17h.
J'aurais été très heureux.
Juste avant 17h, nous serons rejoints par le fils du responsable de la section Côte d'Or du Parti communiste, qui aurait pu donc devenir lui aussi un cassos, mais non, GC sera des nôtres. Après 17h, restez avec nous, surtout si vous aimez le foot, puisqu'on va parler de la nouvelle offre télé concernant la Ligue 1 avec le patron de Ligue 1 Plus, Nicolas de Taverneau. Et non, Quentin, vous ne glisserez pas de CV.
Trop tard.
On revient à notre mot du jour dans cette première heure. Clément Reversé, est-ce que dire cassos, c'est avant tout du mépris de classe ?
Oui, tout à fait. C'est une forme de mépris de place, de mépris de classe, pardon, qui transforme des situations de pauvreté en une sorte de honte morale. C'est ça qui est assez terrible à saisir. C'est comment on se retrouve dans un cercle vicieux de personnes dominées parce qu'ils sont stigmatisées, stigmatisées parce qu'ils sont dominées. Et donc on s'en sort pas.
Et on l'intériorise, j'imagine, ce mot qu'on entend.
Oui, effectivement. Alors moi, si je l'emploie dans mon livre, c'est notamment parce que j'ai des enquêtés qui parlaient d'eux-mêmes à la première personne en disant j'ai une vie de cassos. Moi, j'ai une caisse de cassos, où à la mission locale, les gens me voient tous comme un cassos. Et à partir du moment où il y a eu cette redondance sur le terrain, je me suis dit que c'était une porte d'entrée intéressante que de parler de cette insulte, de ce stigmate du cas social.
Lui, durant ses jeunes années, qu'il faut imaginer avec un filtre sépia et la musique des Bee Gees, le terme cassos n'existait pas. Le monde se divisait tout simplement entre les losers, ceux qui ne rentraient pas au Why Not de Ponto Combo parce que jugés pas assez smart par le videur, et les winners, ceux qui avaient accès au carré VIP du Why Not grâce à leur classe naturelle, leur savant dosage du pento et leur cuir pas de def qui faisait toujours sur la jambe féminine un effet bœuf. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël.
Tu te fous de la gueule de mon phrasé ?
De toi, oui, c'est toi.
Et donc, du coup, on se tutoie ?
Oui, là, maintenant.
C'est la première fois qu'on se tutoie, il faut le dire aux auditeurs.
Oui, c'est vrai.
Dites-moi Cyril, racontez-nous les cassos, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez un mot qui dit tout en une seule insulte. La classe, la honte et la peur d'en faire partie. Un mot lancé comme une vanne, mais qui révèle un système social. Ce mot, c'est celui de cassos. À l'origine, c'est une simple abréviation administrative. Cassos pour cas social. Terme qui désigne un dossier suivi par les services sociaux et qui désigne une personne aidée par l'État, donc une personne en difficulté. C'est à partir des années 90 que le mot va prendre un autre sens et s'échapper de l'administration. Il est repris dans la rue et les cours de collège et de lycée, et même à la télé. Et cas social, cassos, change de sens. Désormais, on ne parle plus d'une personne en difficulté, mais d'une personne qu'on juge en difficulté. Celui ou celle qui n'est pas comme nous, qui n'a pas les mêmes codes que nous.
Et c'est comme ça que ça devient une insulte.
Oui, une insulte de classe. Comme beauf, dont on a déjà parlé dans cette émission. Il rejoint la liste des mots dont le sociologue Didier Ribon dit qu'ils sont les mots du mépris social. Ceux qui permettent aux dominants de se sentir protégés de la peur du déclassement. Mais les cassos sont aussi devenus des objets de la pop culture à partir des années 2000. Dans les émissions comme Striptease ou Confession Intime, on montre les cassos comme des bêtes de foire. Alors, d'où ça sort les cassos, c'est bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Clément Reversé, vous dites que le terme de cas social est intrinsèquement dégradant, on va voir en quoi, mais est-ce qu'il regroupe quand même des réalités sociologiques ? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun ?
C'est assez compliqué, alors on peut parler en origine sociale. Moi, ce que j'avais fait pour par ma porte d'entrée, c'était l'absence de diplôme. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de diplôme, ça rend difficile l'insertion professionnelle, tout d'abord, mais ça a aussi un sens au niveau un peu symbolique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus avoir le bac, par exemple, ça devient surprenant. Ma thèse qui était sous la direction de Joël Zaffran a commencé avec cette porte d'entrée du diplôme et finalement ce qui réunit ces jeunes c'est les situations de précarité dans lesquelles ils sont et la mauvaise réputation qu'ils vont avoir sur place. Donc il y a une dimension objective de la pauvreté et une dimension plus relationnelle, sociale, qui est celle du stigmate qu'ils peuvent vivre localement.
Mais votre travail, vous l'avez pensé dès le départ sur les cassos ou le terme s'est imposé au fil de votre recherche ?
Non, du tout. Ma recherche à la base devait être d'essayer de comprendre pourquoi dans des territoires ruraux, on avait une meilleure insertion professionnelle lorsqu'on n'était sans diplôme qu'en ville, et en même temps on avait des taux de pauvreté qui étaient assez intenses. Et en fait, c'est en discutant avec les jeunes, moi je prenais une heure, deux heures d'entretien pour discuter avec eux, j'étais beaucoup sur la mission locale, j'ai fait beaucoup de terrain, pour essayer de comprendre un petit peu leur vécu, et ce qui ressortait beaucoup, c'était la réputation, le fait d'être cramé sur place, comme il disait. Et c'est ces enjeux de réputation et ensuite des jeunes qui...
Et c'est quoi être cramé sur place ?
être cramé, c'est justement être vu comme le cassos du coin, celui auquel on ne veut pas être associé. La famille, on ne peut pas inviter des amis parce qu'ils ne viendront pas. Être celui qui peut aller au club de foot, mais personne ne va lui parler.
On est moins anonyme aussi, peut-être à la campagne, en région, que dans une grande ville. Donc ouais. On est plus identifié.
Oui, tout à fait. Le cassos, il n'est pas rural par nature. On peut avoir partout, ce stigmate n'est pas rural. Mais ce qui est intéressant au milieu rural, c'est justement que quand on a de l'interconnaissance, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, ne serait-ce que de réputation ou de vue.
Et donc on colle plus vite les étiquettes.
Exactement. Et donc il y a cette crainte qui est beaucoup plus intense.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
La vie de Cassos, il s'en est fallu de peu pour que ce titre soit celui de l'autobiographie de Quentin Luy, qui sera finalement My Way to the Top. Laissant le titre La vie de Cassos à notre invité, le sociologue Clément Reversé, avec nous cet après-midi pour son enquête parue aux éditions Le Bord de l'eau. Clément, comment on vit cette stigmatisation d'être le Cassos du village, de la famille? Qu'est-ce qu'ils vous disent ces jeunes que vous avez rencontrés et qui ont, on l'a dit, intériorisé le fait d'être des cassos?
Ils vivent très mal. C'est des parcours qui sont vraiment marqués par l'isolement. Moi, j'étais assez choqué de rencontrer des jeunes qui me disaient qu'ils n'avaient pas d'amis. Je pensais que c'était une manière de parler, mais vraiment le fait de pas avoir d'amis parce que on est mal vu et en fait devenir le pote de quelqu'un qui est stigmatisé, c'est à son tour à risquer de devenir
stigmatisé. C'est un cercle vicieux. Alors on reste seul.
Exactement.
On est cassos de père en fils, par exemple. C'est famille de cassos entre guillemets. Qui ont des enfants qui vont aussi avoir cette même réputation?
Ouais, complètement. Moi, je parle dans mon bouquin de quelque chose qu'on m'a dit, c'est un jour, j'étais dans une famille, il y avait le fils qui voulait aller faire du vélo et aller chez un ami, et la mère de famille lui dit non, pas chez eux, ça sent le cassos. Et en fait, plus que de dire que ça sent mauvais, tu vas sentir la cigarette froide, c'est plutôt de dire je veux pas que t'ailles avec eux, je veux pas
c'est
que t'ailles
fréquente.
Ouais.
Et c'est vous dites quelque chose de terrible, ils vivent un enfermement accepté parce qu'ils ont le sentiment que le monde dans lequel ils vivent ne leur laisse pas de prise sur leur destin. J'ai l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre, en fait.
Complètement. C'est une très grande tension parce que eux n'ont pas envie d'être vus comme des assistés. Ils font la différence entre cassos et assistés. Mais par contre, ils ont conscience que le marché de l'emploi ne veut pas forcément d'eux. Donc, ils font des missions locales, ils bougent à droite à gauche. Retourner prendre une formation, c'est compliqué lorsqu'on a besoin de rentrer d'argent. Donc, ils ont plus de possibilités. Ils sont cramés sur place, mais ils ne peuvent pas aller autre part, puisqu'ils n'ont que leur famille. Donc il y a cette difficulté qui est bloquée, et ce qui est terrible, c'est la réalisation. Ils savent qu'en fait, ils n'ont pas de prise réellement sur leur destin.
Vous avez d'ailleurs cette phrase, ces jeunes doivent se composer en faisant sans. Ouais. Ça veut dire quoi? En faisant sans quoi?
C'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils étaient vraiment marqués par le manque. La plupart n'ont pas de voiture, ou alors une voiture qui est en panne.
Donc c'est matériel?
Non, pas que. Ils ont aussi pas d'amis, ils n'ont pas de diplôme, ils ont peu ou pas d'expérience professionnelle. En fait, dès qu'on parle d'eux, dans les missions locales, dans les MLDS, etc., c'est par ce prisme du manque. Dès que je parlais à des conseillers, on parlait de ce qu'ils n'avaient pas. Et ce qu'ils n'ont pas, en fait, ça s'accumule beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas de voiture, pas de
diplôme. Vous le disiez, voilà. Mais alors, les jeunes que vous avez rencontrés, ils étaient dans quelle filière, dans quelle... Est-ce qu'ils essaient quand même de faire un diplôme? Pas forcément d'aller jusqu'au bac, mais un entre-deux.
Ouais, alors... C'est des jeunes qui, dès la primaire, ont des difficultés, mais qui, en général, aiment bien l'école. Les difficultés, elles arrivent vers le collège, parce que si on fait des premiers de la classe, on fait des derniers aussi. Et en général, c'est ces jeunes. Et on leur fait comprendre qu'ils sont pas faits pour l'école. Il y a un jeune qui me raconte, par exemple, qu'on lui a dit, en rigolant, que ça serait bien que tu viennes pas pour le brevet, comme ça, tu feras pas baisser la moyenne du collège.
Ah, ça existe.
Ouais. Et donc, ils ont des choix de filière un peu par défaut, c'est-à-dire qu'on leur met un faux choix en disant, moi c'est des termes que j'ai entendus sur le terrain par des conseillers d'orientation, on va l'orienter dans une filière où même lui il pourra avoir le diplôme. En gros, il est tellement nul que même lui il pourra pas le rater. Et le fait est, c'est que c'est des filières qui sont pas intéressantes, que les jeunes veulent pas faire, et donc forcément quand on n'aime plus l'école et qu'en plus de ça on vous met dans une filière qui est pas intéressante, au bout d'un moment vous décrochez.
Est-ce que vous avez vu néanmoins dans votre enquête des cassos, enfin si on accepte le terme parce que c'est le jeu de l'émission, qui réussissent à s'insérer, qui réussissent à briser le déterminisme?
Il y en a très peu. Alors sur le temps long, il n'y a jamais du rien. La difficulté qu'on voit de plus en plus, c'est que ils sont dans ce qu'on appelle du précariat, c'est-à-dire quand la précarité remplace le salariat. Et donc ils alternent. Certains sont saisonniers, on fait de l'intérim, des petites missions blagues, des grandes périodes d'inactivité. Et donc ils se retrouvent dans cette organisation-là du travail. Mais très peu arrivent à trouver un CDI sur mon terrain. Ceux qui arrivent à se stabiliser professionnellement, c'est très rare. Et en général, c'est des ruptures avec leur milieu d'origine et des parcours qui sont vraiment marginaux.
My Way to the Top. Sous-titre, comment je suis devenu une icône de la mode alors qu'avant je m'habillais chez Jules. Hashtag, tout est possible. Préface de Loïc Prigent. Sera certainement l'événement de la prochaine rentrée littéraire.
Venant de quelqu'un qui portait des chemises de marque à la télé et qui maintenant a des vestes dessinées par le chanteur Vianney, ça fait quand même un peu cher.
Je ne savais pas que Vianney était derrière ce coup-là.
Oui, c'est ça. Il est derrière votre veste, en tout cas.
En attendant, Quentin, vous poursuivez au micro-trottoir. Alors, dites-nous, ce terme de cassos, comment les passants l'interprètent ?
Alors déjà, en marchant dans la rue avec le mot cassos à faire lire aux gens, j'ai tout de suite penser à ce générique. Eh oui, diffusé dans ma jeune vingtaine sur Canal+, ça fait des souvenirs. Justement, allons voir de jeunes gens pour savoir ce qu'ils en pensent.
Cassos. On l'a dit il y a 2 minutes.
Vous avez dit ça il y a 2 minutes?
Oui. Ouais.
Sur qui?
Sur un garçon de ma classe.
Non, on a dit qu'on utilise souvent. Ouais.
Qu'est-ce que c'est qu'un cassos? Quelqu'un qui s'invente un peu une vie, peut-être. Qui fait le mec, qui... Nous, on appelle ça un cassos. Ouais. Pour moi, un cassos, c'est quelqu'un de gênant. Ouais.
C'est à ce moment que je décide de leur sortir la définition, peut-être, du terme employé.
Ok, cassos est la contraction familière et péjorative de cas social. Ah mais oui, cas social,
oui, oui.
Elle désigne dans le langage courant des personnes perçues comme marginalisées, vivant d'aide sociale ou en échec d'insertion. Ah putain, je savais pas du tout.
Ouais.
Donc en fait, vous employez le mot cassos
sans vraiment savoir la définition. Je pourrais pas les appeler cassos, pour le coup.
Non, c'est pas...
Ah, les vrais cassos, on ne les appelle pas les cassos.
Ouais. Pour moi, un cassocial, c'est quelqu'un que je peux respecter. Un cassos, enfin, je respecte pas du tout.
Et elle est plutôt intéressante, cette distinction. Plus loin, je tombe sur Guy. Guy, il a 77 ans, la casquette usée par le temps, la doudoune sans manches.
Cassos. Ah, cassos. Ça dit bien ce que ça veut dire, hein. C'est les cassos. Il y a des petits problèmes, qui sait pas où il en est. Cassocial, quoi.
À votre époque, c'est quoi un cassos?
Il n'y en avait pas.
Il n'y avait pas de cassos?
Non, on les gardait, les cassos, hein, pour balayer la rue. Aujourd'hui, on n'en fait rien. De toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on leur dit plus rien.
C'est marrant parce que derrière ce discours qu'on dirait prémâché par CNews, je sens que Guy, il a quand même d'autres choses à dire sur le sujet. Je lui parle des filières, des voies de garage, des œillères qu'on peut mettre à des jeunes gens qui ne vont pas s'épanouir, qui ne s'intégreront pas et qu'on enferme aussi un peu sur eux-mêmes. Et là, je vois que ça lui parle. Je lui demande s'il a connu, dans son parcours, des gens parfois perdus, des cas sociaux justement.
J'ai aidé des gens, ouais. Tu sais, tu peux arriver dans la rue, même toi, hein, tu peux arriver dans la rue, hein. Tu perds ton boulot, tu perds ta femme, tu perds ta maison, t'es un cassos.
Vous avez aidé quelqu'un à se remettre sur le chemin?
Ouais. Bah oui, parce que quand tu es tombé bas, très bas, on a du mal à se relever, hein.
Je marche quelques centaines de mètres et je tombe sur cet endroit de Paris un peu reculé, qui se transforme en port fluvial. Je tombe sur lui. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer?
Je suis en train de dessiner les bateaux et je suis accompagné en fait d'un petit groupe.
Tout le monde a son carnet, tout le monde dessine et il découvre le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Cassos. C'est souvent dit comme une injure dans la bouche des jeunes. T'es un cassos. C'est-à-dire que toi, t'es vraiment t'es insupportable, on peut rien faire de toi, quoi.
Je lui demande le regard qu'il porte sur ce mot devenu un statut dans le regard des autres.
Je pense que j'ai été un cas social, moi aussi, à une époque. Donc, pourquoi ? J'ai vécu à l'époque avec le RMI. Je ne peux pas en penser du mal, un cas social. J'en étais un. On fait ses courses, on doit beaucoup compter. On se met dans une position aussi en dehors des règles, en dehors de la loi. J'ai fraudé, je fraudais beaucoup dans les transports en commun à cette époque-là. Bah non, je n'avais pas les moyens de me payer une carte orange. J'étais... en dehors des règles de la société.
C'est intéressant. Est-ce qu'on se met vite en marge, en opposition au reste du monde, quand les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles? Ça, c'est la question. Ma dernière rencontre, c'est Géraldine, 64 ans.
Cassos, normalement, ce sont les cas sociaux. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Un cassos, ça peut être quelqu'un de différent. Un cassos, ça peut être un loser.
Ah, alors pour elle, il y aurait plusieurs formes de cassos.
Donc, il y a les cassos qui sont des cassos parce qu'ils ont, je vais pas dire parce qu'ils ont envie de l'être, mais qui le sont profondément et qui, à la limite, ont pas tellement envie de modification.
Il y a ceux qui en ont envie et qui le font. Et puis il y en a d'autres où on sent que de toute façon, il n'y a plus de lumière aux étages. Quoi.
Bon, là, Géraldine, elle confond, elle méprise un peu. Et surtout, on se rend compte que ce mot perd les gens dans la définition qu'ils en donnent au fur et à mesure. Géraldine m'avoue être souvent confrontée à la misère sociale.
Moi, j'habite, mon bureau est gare d'Austerlitz.
Ouais.
Donc évidemment, il y a beaucoup de clochards. Et il y a des clochards qui sont totalement différents. Il y a ceux qui sont adorables quand ils sont à jeun et qui, quand ils sont complètement bourrés, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est qu'une fois, elle me dit « Oui, j'ai pas de téléphone, j'ai plus rien, il faut que je téléphone. » Enfin, je dis « Bah, venez, entrez, je vais vous aller téléphoner. » Et il parlait à son assistante sociale et lui parlait très, très, très mal. « Pourquoi vous l'insultez ?» Elle dit « Ouais, mais ma paye est pas tombée. » Enfin, ma paye, entre guillemets, mon allocation n'est pas tombée. Il est en train d'engueuler la personne qui l'aide.
Géraldine, elle mâche pas ses mots, mais peut-être qu'elle n'a pas tout à fait tort. Derrière le mot « cassos », il y a ceux qu'on abandonne et ceux qui s'y sont parfois résignés dans un pays où mettre les gens dans une case va toujours plus vite que de les en faire sortir.
Merci Quentin, il y a beaucoup de choses à dire sur ce micro-trottoir, mais ce mot de cassos, on voit que dans la bouche de certains jeunes, ça n'a même plus rien à voir avec un cas social, c'est juste, ça veut dire quelqu'un de gênant, un loser peut-être plus qu'un cas social.
Oui, bah, c'est intéressant de voir à quel point le terme est réemployé. Moi du coup, maintenant je tique quand je suis en voiture avec des amis et que quelqu'un coupe la rue, bah, on traite de cassos, oui. Alors que ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir. Mais les insultes sont intéressantes à observer, puisque elle reflète nos points de crispation. Mmh. Et en fait, dire que c'est entrer dans le langage courant, d'insulter les gens de cas sociaux comme loser, connard, etc., ça veut quand même dire en retour qu'on a une tension autour de cette idée d'une pauvreté qui serait inacceptable. C'est ce que dit Géraldine. En fait, il y a les bons pauvres et les mauvais pauvres.
Les feignants.
Oui, voilà.
Il y a Guy aussi qui nous dit « À mon époque, il n'y avait pas de cas sociaux, on leur faisait balayer les rues. » Est-ce que pour vous la misère sociale a augmenté ces dernières années? Est-ce que l'insertion est plus délicate qu'il y a 30 ans? Qu'est-ce que vous avez observé, vous?
Alors, il y a des effets de relégation et de file d'attente. Comme je l'ai dit, eux, ils n'ont pas de diplôme. Et comme les diplômes perdent de leur valeur, ils n'ont presque plus de place sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on est approximativement à 3 millions de chômeurs. On a 400 000 postes disponibles en France. Donc, on a un problème d'équation dans l'insertion professionnelle. Et surtout pour ces jeunes, en fait, qui n'ont plus vraiment de place sur le marché de l'emploi. Et les postes peu qualifiés pour eux disparaissent ou s'effritent. Et ça devient effectivement compliqué.
Justement, vous avez constaté que ces jeunes mettent tous un point d'honneur à se distinguer des assistés. Qu'est-ce qu'ils appellent des assistés et pourquoi ils ne veulent pas qu'on les appelle de cette façon?
Ouais, c'est assez intéressant. J'ai un jeune qui me disait « Je suis peut-être un cassos, mais je ne suis pas un assisté.
Ouais. »
Et cette phrase, elle m'a marqué parce qu'ils font la différence entre vivre avec des aides, parce que tous les jeunes que j'ai rencontrés vivent avec des aides, et vivre des aides, vivre uniquement des aides sociales. Quand on leur demande... moi, j'avais deux questions, j'avais dans ma recherche là-dessus, j'en avais une, c'était « Qu'est-ce que tu penses des gens qui vivent avec les aides sociales ?» Et le discours était toujours très, très violent. C'était « Moi, je leur foutrais des coups de pied au cul, c'est des feignants, ils foutent rien, etc. »
Alors qu'ils en touchent aussi.
Alors que le jeune m'explique 20 minutes plus tard dans l'entretien qu'il vit des APL, que ça fait 6 mois qu'il n'a pas travaillé. Mais symboliquement, on essaye de garder en fait, son honorabilité. On se distingue encore une fois parce qu'on sait qu'on est stigmatisé, on stigmatise les autres en disant il y a toujours plus bas.
Vous pensez, Clément Reverset, que si j'avais fait ce micro-trottoir dans une ville moyenne, un petit peu plus petite que Paris, j'aurais eu des réponses différentes?
C'est difficile à dire. Je pense que ça aurait pu être peut-être plus agressif dans des plus petites villes où l'interconnaissance joue ce jeu. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que en fait, en désignant l'autre de cassos, je me protège en disant c'est pas moi. C'est les autres qui sont cas sociaux. C'est une manière de se distinguer. En fait, en insultant, en pointant du doigt quelqu'un d'autre que soi-même.
France Inter.
L'heure du quiz, et aujourd'hui, puisqu'on va zoomer sur ces personnalités qui auraient pu finir cassos et qui ont su s'arracher à leurs conditions, je dédierai ce Zoom Zoom Test à deux êtres chers à mon cœur et chers tout court, vu qu'ils renégocient leur cachet à chaque fin de saison, Pierre Courade et Quentin Lui. Quentin, qui a grandi, rappelons-le, dans une casse automobile en périphérie d'Alençon, au contact des voleurs de voitures et des marginaux, et que tout prédestiné à terminer dans un épisode d'Ondelat raconte, Pierre, qui dormait à même la paillasse d'un abri à moutons près de Lourdes, et qui, vu son caractère de cochon, aurait dû devenir le Jeffrey Dahmer de Bigorre, mais qui croisa, Dieu Dieu soit loué, la route de l'abbé Chibrard qui, ému par ce petit être, le prit sous son aile et surtout sous sa soutane pour lui faire découvrir les voies du Seigneur qui, contrairement à ce que dit la Bible, ne sont pas toutes impénétrables. Bref, voici un quiz sur les cassos devenus stars. Jouons au Zoom Zoom Test. Et comme vous le laisse deviner, cette sublime version de The Winner Takes It All à la flûte de Pan, enregistrée par Cyril dans sa suite du Bellagio après avoir gagné $57 au Blackjack, nous démarrons notre tour du monde en Suède. Pire que la Suède, la campagne suédoise, Manon. Car oui, notre premier cassos qui a percé le plafond de paille a grandi dans une ferme.
Mais quel enfer!
Il a même démarré dans le business avec un projet encore plus bancal que la tasse Lucy Gallou de Quentin, puisqu'il vendait des allumettes au porte-à-porte en vélo. Bon, alors il avait 5 ans. Preuve d'un certain esprit entrepreneurial quand même, il monte sa première boîte à l'âge de 17 avec l'argent donné par Papounet en récompense de ses bonnes notes. Des années plus tard, il agacera profondément mon propre père à la caisse de la Migros du Grand Saconnet à Genève, où il prenait un temps fou à sortir toutes ses cartes de réduction alors qu'il était multimilliardaire. Cet entrepreneur inspirant mais radin, c'est Stéphane Moritz, le fondateur d'H&M, Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, ou Anders Dalvig, le fondateur de Chris Prolls.
Diamant.
C'est allé plus vite dans la bouche de Manon. Notez que j'ai jeté un voile pudique sur la partie sympathisant du nazisme dans la bio d'Ingvar Kamprad. Kamprad qui, ayant un nom d'étagère IKEA, a effectivement décidé de donner des noms chelous à tous ses produits par mimétisme ou vengeance, on ne sait pas. Petite anecdote à glisser dans un dîner mondain, si les trois infos du Lacar News n'ont pas suffi à faire de vous le roi de la soirée. IKEA sont les initiales d'Ingvar Kamprad, El Matarud le nom de sa ferme et Aganurid son village natal. Et maintenant,
bien prononcé.
Direction vous savez où, you know where. La plus belle démocratie du monde après le Cameroun, les États-Unis d'Amérique. Et plus précisément sur les rives du fleuve Mississippi, la ville de Kosciusko, pas Morizé, juste Kosciusko. C'est là que voit le jour, dans une famille miséreuse, une petite fille dont les robes sont faites en sac à patates. Plus précoce que Pierre Courade, malgré les leçons très particulières de l'abbé Chibrard, elle apprend à lire la Bible dès l'âge de 3 ans. À 6, elle présente déjà des spectacles pour les animaux de la ferme avec un épi de maïs en guise de micro, alors que Quentin n'a commencé le micro-trottoir dans la zone commerciale d'Alençon qu'à l'âge de 10 ans avec une chaussette Bart Simpson en guise de bonnette posée sur une demi-baguette tradition.
C'est américaine.
Cette future animatrice et productrice, c'est bien évidemment, vous l'aurez reconnue, Oprah Winfrey, Barbara Walters ou Hélène DeGeneres.
B.
C.
Je vous donne l'opportunité du nom pour répondre. Oh oui, Manon, bravo! Oh Manon!
Oh là là.
Vous y songerez la prochaine fois pendant notre déloque à Poitiers quand vous râlerez de n'être qu'en 4G. Oprah Winfrey, elle a vraiment connu le dénuement. Comme quoi, grandir sans eau ni électricité avec des sacs, en pommes de des sacs de pommes de terre en guise de robe, ça vous forge un caractère. Pour rappel, Oprah a été la première afro-américaine milliardaire. Rien qu'entre 2009 et 2010, elle aurait gagné pas moins de 315 millions de dollars. C'est bien, mais pas top, dirait Spencer lui, le tonton milliardaire de Quentin. Dont l'idole n'est pas Oprah Winfrey, mais un autre génie de l'entrepreneuriat américain qui aurait pu devenir un cassos car il a grandi les pieds dans le purin dans une petite ferme de l'état de New York sans savoir qu'il deviendrait un jour l'homme le plus riche du monde. En effet, rien ne le laissait penser puisque son premier business consiste à élever des dindons puis à prêter de l'argent gagné à ses petits camarades qui devraient ensuite le rembourser avec des intérêts. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, il deviendra donc l'homme le plus riche du monde, étendant ses affaires à d'autres secteurs plus lucratifs que les dindons comme le pétrole et l'immobilier. Il aura comme Trump un gratte-ciel à son nom à New York. Vous aurez bien évidemment reconnu l'histoire folle de Warren Buffett, l'incroyable ascension de JP Morgan ou la folle trajectoire de John D. Rockefeller.
Ah non,
c'est...
Oui, dommage. Raté, bonne réponse de Manon. John Davidson Rockefeller, une passion sans faille pour la moula, qui n'avait d'égal que sa passion pour le Christ, puisque tout au long de sa vie, de l'élevage des dindons à la Standard Oil, Rockefeller a toujours reversé 10% de ses gains à l'église, l'inverse de Pierre Courade qui lui piquait l'argent de la quête pour s'acheter Avion de chasse magazine. Mais Dieu l'a durement puni en le faisant appui de Cyril la carrière. Enfin, pour terminer, je vous propose une petite liste. Saurez-vous deviner lequel ou lesquels de ces powerful people auraient pu devenir des cassos s'ils étaient restés dans leurs environnements naturels? Amancio Ortega, le fondateur de Zara, oui. Mao Tse-tung,
ah, mais faut dire...
ou Henry Ford, le fondateur de la marque automobile Ford.
Les trois.
Quentin, je vois...
C'est sûr.
C'est sûr, ou la réponse C est sûr.
C'est, ouais, bah je dis que c'est moi.
Vous dites que c'est, vous choisissez qu'une seule des réponses. Bien Quentin, pour une fois... C'est Manon qui donne la bonne réponse. Les trois, mon capitaine, oui, Henry Ford, Mao Tse-tung et Amancio Ortega, le fondateur de Zara, viennent tous de la street, surtout Ortega.
Faut le dire quand il y a plusieurs réponses possibles.
Je vous l'ai dit,
faut pas avoir
lequel
le
ou lesquels.
Non, mais j'ai pas le seum.
Ça vous va pas autant.
Non, mais...
Mais vous ne le voyez même pas, vous dites n'importe quoi. Ortega qui est passé de coursier à la Corogne à première fortune d'Espagne, de la rue au sommet du classement en forme. C'est tout ce qu'on souhaite à Quentin, même si c'est pas gagné. Victoire de Manon Mariani.
Qui avait quand même deux points.
Alors, j'avais,
Mais c'est bon, vous allez rajouter, pas besoin de le dire.
C'est en strike, voilà.
Et vous étiez parti avec moins de, nous rappelle-t-on, en régie. Et oui, les amis, Clément Reversé, maître de conférence en sociologie, est toujours avec nous pour son enquête intitulée « La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie », paru aux éditions Le Bord de l'eau. Clément, au cours de votre enquête, j'aimerais qu'on vienne là-dessus. Vous êtes retrouvé à dîner dans la famille d'une jeune femme qui s'appelle Marie, famille rurale, populaire. À un moment donné, ses parents ont eu cette phrase qui vous a interpellé. Chez eux, ça sent le Cassos. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette remarque?
Oui, effectivement, c'était pour refuser le fait que son petit frère aille jouer chez un ami. Ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise un dégoût de classe. C'est un dégoût physique, en disant les cassos me dégoûtent parce qu'ils sentent mauvais, ils sont pas beaux, ils sont gros, ils savent mal s'entretenir. Mais c'est aussi un dégoût moral derrière qui a. Ils profitent des aides, ils veulent pas travailler, ils sont feignants, etc. Moi, je suis en train d'étudier un groupe qui s'appelle le Nurshit Cas Social sur Facebook, un groupe où il y a presque, je crois, 100 000 personnes qui sont dessus et qui se moquent dessus. Et on essaie de regarder un petit peu les récurrences. Et en fait, ce qui est le plus moqué, c'est pas tellement le côté administratif, le fait de dépendre des aides sociales, c'est beaucoup le physique. Par exemple, c'est beaucoup une sorte de dégoût, c'est ils mangent mal, ils sont trop gros, c'est sale chez eux, ça va être de la débrouillardise financière et ensuite des débordements, de la mauvaise gestion familiale, etc. C'est ça qui est avant tout reproché.
Mais qu'est-ce que ce mot Cassos, il nous dit de ceux qui l'emploient? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne l'emploie pas pour se démarquer quelque part, se dire nous on n'appartient pas à ce monde-là et se rassurer entre guillemets?
Oui, tout à fait. Il y a deux choses qui sont à l'œuvre. Il y a le fait de se distinguer en disant bah, moi au moins je suis peut-être un travailleur pauvre. Par exemple, mais je suis pas un cassos. Et de l'autre côté, c'est la grosse problématique, c'est pointer le doigt du mauvais côté, en essayant de faire croire que finalement c'est ces jeunes-là qui coûtent cher. C'est un discours qui est récurrent, la France honorable, la bonne France qui serait celle des travailleurs, et ces jeunes qui veulent pas travailler, qui vivent des aides sociales et qui nous coûtent cher, alors que la réalité, c'est que aucun de ces jeunes veulent rester dans cette situation, bien évidemment.
Mais vous dites qu'ils sont seuls, en général, qu'ils ont très peu d'amis. Ça paraît peut-être bête comme question, mais ils traînent pas entre eux?
Non, très peu. Alors déjà, c'est que dans les territoires ruraux que j'ai pu étudier, souvent, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y a 5, 6, 20 jeunes qui sont sur place. Et eux, en général, ont quitté l'école assez tôt. Donc, ils n'étaient plus à l'école, ils n'avaient plus les références de leurs copains, etc. Et en plus de ça, il y a très peu de possibilités de mobilité. Si on n'a pas la voiture, on ne peut pas aller voir ses amis. Donc, beaucoup sont complètement isolés et effectivement me disent qu'ils passent parfois des jours, des semaines sans voir personne en dehors de leur famille.
Le système de la débrouille dont vous parliez, ça peut aller très loin. Vous recueillez un témoignage très dur, celui de Pauline. Elle a 18 ans et vous explique au détour d'une conversation qu'elle se prostitue depuis l'âge de 13 ans. Pouvez-vous nous raconter?
Oui, tout à fait. Ça n'a pas été la seule. Et c'est une enquête qu'on aimerait poursuivre derrière. Quand je parle de l'importance des enjeux d'interconnaissance, ça, c'est un point qui m'a énormément choqué. C'est qu'elle me raconte notamment qu'encore majeure, elle se fait passer pour mineure pour attirer des pédocriminels. Et en fait, sa réflexion à elle, c'est de dire que déjà, elle peut faire payer plus cher et surtout qu'on ne va pas la balancer. Parce que dans ce cas-là, admettre qu'on est pédo. Des fois, il y a ces systèmes de débrouille. Alors, comme il y a parfois certains jeunes qui gardent de la drogue chez eux, j'ai un jeune comme ça qui m'explique qu'il a fait ça pour payer son aspirateur qui était tombé en panne. Et c'est des besoins imminents qui peuvent aller très loin. Des jeunes qui me disent qu'ils mangent que de la semoule, des pommes de terre. Un autre couple qui m'explique avoir vendu son sommier pour finir de payer son loyer. Donc on est sur des situations de misère et qui sont stigmatisées, et c'est terrible.
Et de solitude, Quentin. Et vous dites que les réseaux sociaux ne permettent pas non plus de compenser entièrement le manque de sociabilité, mais ont un effet d'amortisseur et de l'isolement. Ça veut dire quoi, ça?
Oui, tout à fait. Bah, comme ils sortent peu localement, ils disent que voilà, ils sont mal vus, ils sont grillés, donc il faut compenser avec quelque chose. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Quelque chose qu'on reproche beaucoup en disant « Regarde, ils vivent des aides sociales, mais ils ont un iPhone. » En réalité, c'est une nécessité aujourd'hui
d'avoir
une
voie de sauvetage pour eux.
Voilà, déjà pour les démarches.
Au monde ?
Pour être connecté au monde, quand l'agence d'intérim vous appelle, il faut être réactif. Et tout simplement pour voir, pour discuter avec quelques amis. J'en ai certains qui, comme ils sont grillés sur place, vont avoir des groupes d'amis sur League of Legends, sur des plateformes Discord, etc. Et c'est ce qui les rattache finalement à des échanges sociaux.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir, pendant que Jessé, qui nous a rejoint en studio, bonjour Jessé, décède
tous.
Quasiment.
La discrétion incarnée.
La discrétion incarnée, ce sacré Jessé. Oh. J'espère que tu es négatif.
Faites-vous tester demain.
Très bien, génial. Une bonne nouvelle. La pièce jointe de Manon Mariani.
Une histoire sordide aujourd'hui, celle de Raphaël Graven, star de la chaîne Kick, Jean Pormanov, un homme de 46 ans sans histoire qui avait, avant de se reconvertir dans le streaming, qui enchaînait les petits boulots, agent d'entretien, employé à la poste, éboueur, gardien de déchetterie ou encore chauffeur-livreur. Mais en 2020, sa vie bascule quand il commence à streamer sur la plateforme de vidéo Kick, une plateforme connue pour sa quasi-absence de modération. Si au départ, il était plutôt tranquille à faire ses chats de son côté, il se fait vite repérer par deux autres streamers, Naruto et Safine, qui l'invitent à former une équipe dans ce qu'ils appellent leur local, avec un K. Un autre streamer les rejoint aussi, Koudou, un homme handicapé placé sous curatelle. Raphaël Graven ne le savait pas encore, mais à partir de là, il va se retrouver embarqué dans un business sordide, malsain et destructeur. Tous les jours, en live, devant des centaines de milliers de personnes, il se fait humilier et violer. Des coups de poing, des étranglements, des jets d'eau gelée, des claques. Naruto et Safine profitent de sa faiblesse et de celle de Koudou. Leur chaîne devient l'une des chaînes françaises les plus populaires sur Kick et leurs abonnés en redemandent.
Et ça va conduire au pire, Manon.
Oui, le 18 août 2025, Raphaël Graven décède dans son sommeil en direct sur la chaîne Kick devant des milliers de personnes. Les autres streamers autour de lui s'en sont rendus compte après lui avoir lancé une bouteille sur le visage pour le réveiller. Les spectateurs branchés sur le live à ce moment-là étaient de plus en plus nombreux à exprimer leur angoisse en voyant que Raphaël Graven ne bougeait plus depuis un certain temps. Sa mort a évidemment suscité beaucoup d'interrogations et d'indignation, même si l'autopsie a exclu une cause traumatique directe ou l'intervention d'un tiers orientant vers une origine médicale ou toxicologique. Il n'en reste pas moins que Raphaël Graven a pu subir quotidiennement des sévices sur une plateforme sans qu'elle ne soit jamais condamnée pour laisser passer cette violence. La responsabilité de Kick dans cette histoire est pourtant primordiale. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'une enquête par le Parquet de Paris pour ses pratiques, mais il aura fallu attendre qu'une personne décède pour ça. Raphaël Graven était vu comme un cassos, traité comme un cassos, insulté de cassos. Son statut de outsider social a conduit à ce que des personnes malveillantes profitent de sa gentillesse et de sa naïveté pour gagner de l'argent sur son dos. Un homme sans histoire qui voulait se faire accepter et qui a fini par accepter l'inacceptable.
Merci Manon. Clément Reversé, est-ce que ce genre de plateforme comme Kick finalement reproduisent les rapports dominants-dominés ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on voit avec ce cas-là, c'est une déshumanisation. C'est-à-dire que la personne devient une sorte de punching ball symbolique pour se rappeler que, je crois que c'était, je ne sais plus le terme, ils avaient une émission de questions pour un Google où ils se moquaient d'eux parce qu'ils ne savaient pas répondre à les questions, il est frappé. C'est d'une violence terrible et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que c'est accepté. À d'autres échelles, il y a eu beaucoup d'émissions dans les années 2000-2010, on en parlait, qui se moquaient.
Antenne, oui.
D'une certaine manière, pas aussi violemment bien sûr, mais d'individus en fait qui sont fragiles, qui sont vulnérables.
Vous pensez à quoi par exemple comme émission ?
Il y avait tellement vrai, il y avait Striptease,
Confession intime,
dans une moindre mesure. Beaucoup de gens se moquaient de ceux qui passaient chez Pascal Le Grand Frère, Super Nanny, etc. Et en fait, c'est toujours se moquer d'eux pour se rassurer en disant qu'il y a pire.
Donc les médias ont construit les cassos aussi, enfin l'image en tout cas.
Oui, enfin je le crois.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il n'avait pas été aussi ému depuis la fois où, par inadvertance dans les sanitaires, il était tombé nez à nez avec Théo Delobadère qui remontait sa braguette. Oui, je vous laisse visualiser la scène. C'est la même émotion teintée d'excitation que j'ai retrouvée dans le regard de Pierre Courade ce matin lorsqu'il a déballé un petit colis dans lequel France 2 lui avait adressé le jeu des 7 familles Drag Race France. On peut parler de Noël avant l'heure pour celui qui adore les drag queens et surtout Nicky Doll, qu'on embrasse.
On l'embrasse.
Pierre, chaque après-midi, vous nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, donc aujourd'hui, les Cassos.
Les Cassos avec le sociologue Clément Reversé. Aucune offense pour mes voisins béarnais, mais c'est en Nouvelle-Aquitaine que notre invité est parti à la rencontre de cette frange stigmatisée de la population. Un terme dégradant qui ne recoupe pas forcément les mêmes réalités. Les Cassos ne constituent pas un groupe homogène. Un cas social est avant tout une personne sans diplôme, mal orientée, qui n'a pas trouvé sa place dans la société, dans le tissu économique, voire dans sa propre famille. Notre invité parle de manque, d'isolement, d'ennui. Les jeunes qu'il a suivis doivent vivre sans voiture, sans argent, sans relations sociales, mais avec une étiquette, celle du cassos. Finalement, cassos traduit un certain mépris de classe, un terme qui transforme une situation de pauvreté en honte morale. Un cercle vicieux se met en place, intériorisé par les personnes stigmatisées elles-mêmes, si bien qu'il leur est difficile de sortir du précariat, et ce, même si elles mettent un point d'honneur à se distinguer des assistés, un terme utilisé là aussi comme une insulte, une manière de se rassurer, on est tous le cassos de quelqu'un.
Merci Pierre. Fini les infos gratuites, la suivre est à découvrir dans La vie de cassos, jeunes ruraux en survie aux éditions Le Bord de l'eau, c'est signé par notre invité Clément Reversé, c'est 18 €, c'est très accessible. Merci Pierre, et c'est maintenant.
Ça va,
c'est maintenant.
C'est la première fois qu'il dit
l'heure d'écouter la chronique de GC qui a beaucoup à fait pour cette émission.
Bonjour à tous, exactement. En fait, moi j'ai cherché la définition du mot cassos et en ouvrant le dictionnaire, je suis tombé sur une photo de Quentin. Bah, j'ai trouvé ça pas très cool de la part des équipes du petit Robert en fait. Quentin, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà, oui, et t'as un très beau parcours, ma pute, vu d'où tu viens. Voilà.
Et tu viens de Dijon, qu'est-ce que tu racontes?
C'est mieux qu'Alençon, je rêve. Et, en tout cas, non, mais c'est vrai que t'étais pas un choix évident pour France Inter quand on voit tes petits picots sur la tête. Oh. Bah oui, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis pas d'accord avec ce que dit Adèle Vendrette. Tu serais pas mieux aux 12 coups de midi. C'est faux. Voilà, t'es indispensable. Et on va tous le dire, Quentin, il est.
Indispensable.
Oui, il me regarde avec des yeux. Voilà.
Je sais pas si c'était une
exactement. Non, pas comme Pierre Courade. Oh non, mais pardon, ma puce, mais une minute de parole sur 120 d'émissions. Si ça, c'est pas la définition d'un cas sauce, peut-être. Hein. Et en vrai, très difficile de définir ce que c'est qu'un cas social. C'est quoi? C'est un mec qui écoute Johnny dans sa Renault Nevada tunée? Ou c'est quelqu'un qui est allé applaudir Sarko à la sortie de chez lui? Mon cœur balance. Hein, et oui, toutes ces activités ressemblent à la semaine type de Cyril Lacarrière. Je suis deck pour la vanne sur Sarko, il y a Carla qui venait de me follow sur les réseaux.
Ah bah ouais, follow rapidement.
Bye Carla. Souvent, le thème cassos ramène à la ruralité hein, ou à la banlieue. Je veux dire, jamais Enguerrand du 11e qui pète du chou kale hein, pensera que c'est un cassos. Ben non, hein, alors que cet homme porte un bonnet en alpaga en plein été, voilà, hein, qu'il achète des bêtes goji à 37 € le kilo, qui chie en entier le lendemain parce qu'il ne les digère pas avec son côlon irritable. Oh, pardon, hein, mais selon moi, la frontière est quand même sacrément fine avec la cassosserie. Mais non, les hipsters sont protégés de l'opprobre social grâce à leur sceptre magique, les Birkenstock. Non. Ah bah pardon, je rappelle qu'il y a 10 ans, la seule excuse valable pour avoir des birks au pied de ton lit, c'est parce que tu venais de sucer un Allemand. Oh, hein, voilà, hein, en camping dans le Tyrol. Bah, bien sûr que c'est vrai, Manon. Hein. Mais maintenant qu'il y a une boutique dans le Marais et qu'une paire coûte 150 balles, suffit juste que ton plan cul rentre de chez Naturalia. Ah, mais c'est quand même fou. C'est fou, les bobos, comme on s'approprie la culture cassos en la rendant juste plus chère. Et évidemment, je m'inclus, je fais cette chronique avec des Birkenstock. Oh ouais, bien sûr, elles sont très confort.
Et j'adore. Des chaussettes.
Et c'est hyper abordable, en fait, 150 balles. Qu'est-ce
claquettes
que c'est
chaussettes.
Il y a une chaussette de
oui, il y a une chaussette. Ah,
ouais, oui, ouais. Mais, mais qu'elle fact-check mes chroniques maintenant, celle-ci. Excuse-nous, Irine Brokovic. Mais c'est dingue. Mais c'est pas possible. Après, moi, j'ai commencé cassos des campagnes. Hein. J'ai commencé cassos des campagnes dans mon bled de Côte d'Or. Ah bah, j'en ai fait hein, des mariages dans des salles des fêtes, avoir des ongles bourrés, tripoter des cousines sur du Michel Sardou. Hein. Oh. Et non, Cyril, c'est pas une soirée normale. Moi, j'ai été jaloux d'un cousin qui a eu une motocross à Noël. Ah, voilà. Après, j'avais eu la Barbie que je voulais, donc j'étais hyper content. Et j'ai d'ailleurs gardé hein, vraiment une certaine appétence, moi, pour les cassos ruraux. Hein. Je peux vous dire que quand il y a un tatouage tribal sur un gros biceps, ça m'émoustille. En plus, si t'as une gourmette et que tu trouves Artus drôle, là, vraiment, je ne réponds plus de rien. Tape-moi dans le fond directement.
Oh non.
Oh non, la Marianoche en PLS, hein, évidemment, vu qu'elle aime que les fragiles. Bah non, mais je rappelle qu'un de ses red flags, c'est boire du lait de vache. Vraiment. Oh, c'est pas possible. Mais faudrait vraiment qu'on trouve un moyen de réconcilier les cassos et les bobos. Ah, parce qu'on devrait s'entendre quand même, on a en commun les Bob Lidl. Mais finalement, les bobos, qu'est-ce qu'on est? Des cassos des villes, ni plus ni moins, hein, avec en président de club, Mathieu Noël.
Volontiers, j'accepte la mission. Merci, GC, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. GC, vous êtes complet tout 2025, mais vous serez au théâtre des Mathurins pour 8 représentations exceptionnelles en juin 2026. Oui. Et on vous retrouve en tournée partout en France dès le mois de janvier. Oui, on dit 8. Vous savez où on dit 8? dans l'est de la France.
Oui. À Strasbourg.
À Strasbourg.
Et aussi de... Vous venez de Strasbourg,
Nancy. Non, mais quelqu'un qui est cher à mon cœur.
Une nouvelle origine.
Quelqu'un qui est cher à mon cœur vient de Nancy, effectivement.
Non, mais vraiment,
il m'arrive de dire
les scroqueries
oui,
de ce garçon.
Oui. Les autres infos, c'est sur icigc.com.
Merci. Finir ma promo, Mathieu.
Merci. Oh. Oui, jusqu'au bout, malgré ce gros lourdeau de Cyril Lacarrière. Ah oui. Merci, Clément Reverset, de nous avoir permis de détricoter cette expression de Cassos. Je rappelle votre enquête sur le sujet. La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Zoom Zoom Zen.